Bonjour, bienvenue pour cette exploration rapide de la newsletter Infobulle de septembre 2025.
Bonjour. Oui, une ressource toujours très très dense pour les professionnels de la formation.
Absolument. Elle couvre un spectre large, de l'ingénierie pédagogique jusqu'à la FEST. Et petit détail intéressant, les notices ont été en partie préparées avec ChatGPT, puis bien sûr relues et ajustées.
Tout à fait. Ça montre aussi comment les outils évoluent. D'ailleurs, cette édition teste même des formats comme l'audio, la vidéo, via Notebook LM, par exemple.
Ah oui, oui, oui.
Oui, pour synthétiser l'info. L'objectif, c'est vraiment ça. Aider à rester à jour efficacement.
Et difficile de parler de rentrée sans parler d'IA, évidemment. C'est partout.
Ah, ça oui. Les agents conversationnels, ChatGPT, Gemini, Claude, ils ont tous maintenant des modes dédiés à l'apprentissage.
C'est ça. Et de devoirs, explications de sujets complexes, c'est assez impressionnant.
Impressionnant, oui. Mais il y a un revers. Une étude intéressante montre la relation des étudiants à l'IA. Pour certains, c'est un vrai soutien.
Mm-hmm.
Mais pour d'autres, ça peut être source d'anxiété, de dépendance, et ça peut même fragiliser l'estime de soi.
Ah oui, c'est le double tranchant. Ça pose la question de l'accompagnement par le formateur, j'imagine.
Exactement. Comment intégrer ça de manière responsable? D'ailleurs, la CNIL a publié 2 FAQ sur l'usage de l'IA en milieu scolaire.
Justement, oui.
Pour cadrer un peu.
Voilà.
Pour rappeler les bénéfices, comme la personnalisation de l'apprentissage, mais aussi attention aux risques, dépendance, confidentialité des données.
C'est un équilibre à trouver. Et même les acteurs de l'IA s'y mettent, comme Mistral AI, qui analyse son empreinte environnementale.
Oui, pour leur modèle Large 2. C'est une démarche de transparence, de sobriété numérique qui est assez notable, je trouve.
Tout à fait. Bon, au-delà de l'IA, il y a des aspects plus stratégiques, on va dire.
Oui, comme le calcul du retour sur investissement, de la digitalisation, le fameux ROI.
Essentiel pour justifier les investissements, savoir peser les coûts, les bénéfices réels.
C'est ça. Et puis, toujours d'actualité, les formations certifiantes. RNCP, répertoire spécifique, comme levier d'employabilité.
Un mode d'emploi est d'ailleurs proposé dans la newsletter.
Oui, et ce qui est nouveau, c'est l'intégration de la transition écologique dans ces certifications. C'était le sujet d'une webconférence du réseau Emploi Compétences.
Intéressant. Et dans la même veine d'adaptation aux enjeux sociétaux, le rôle du référent handicap.
26. Dans les organismes de formation, un acteur clé de l'inclusion.
N'oublions pas non plus le rôle du tuteur en entreprise, souvent sous-estimé, comme le rappelle une étude du CEREC.
C'est vrai. Un travail essentiel, mais qui ne va pas de soi.
Alors, si on passe à la conception pédagogique, on s'entend beaucoup parler de la théorie de la charge cognitive. Qu'est-ce que ça implique concrètement, Evelyne ?
L'idée principale, c'est de respecter les limites de notre mémoire de travail, donc concevoir des parcours progressifs, clairs.
Éviter le superflu, en gros.
C'est ça. Ne pas surcharger cognitivement l'apprenant. L'Université de Montpellier a d'ailleurs abordé ça, et l'IA en pédagogie, lors de Pédagonium 2025.
Et pour le côté très pratique, il y a le kit de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine pour déployer la FEST.
Oui, très concret pour mettre en place la formation en situation de travail. Mais attention, avec l'IA dans la conception, il y a des pièges.
Les pires usages, comme ils disent.
Voilà. Confondre rapidité et pertinence, par exemple, ou manquer d'esprit critique sur ce que l'outil génère.
Ne pas se reposer uniquement sur les données internes de l'IA.
Exactement. Il faut contextualiser, croiser avec ses propres ressources. L'outil Notebook LM de Google qui résume des documents en vidéo, c'est intéressant. Mais ça demande justement ce recul critique. C'est un outil, pas une fin en soi. On voit même des expérimentations en réalité virtuelle, comme Revivre pour la formation viticole.
Ah oui, c'est innovant ça. Et une fois qu'on a conçu, comment on fait pour garder les apprenants engagés, surtout à distance? Le décrochage, c'est un vrai risque.
Le lien humain, encore et toujours. La structure, bien sûr, des contenus engageants, variés, et surtout, reconnaître les progrès.
Valoriser l'effort.
Oui. Et privilégier des méthodes qui font réfléchir activement, pas juste consommer de l'info. Ça développe l'autonomie, la pensée critique.
Ça rend l'apprentissage plus vivant.
C'est l'idée.
Et pour l'évaluation formative, j'ai vu une approche intéressante, co-construire les grilles avec les apprenants.
Et oui, ça peut vraiment clarifier les attentes et renforcer leur motivation, leur implication.
Ça démystifie un peu l'évaluation.
Tout à fait. Et ça rejoint l'idée de repenser l'évaluation sommative pour qu'elle mesure vraiment un apprentissage durable.
Il faut espacer, cumuler, répéter les évaluations plutôt que le contrôle ponctuel classique.
Exactement. Sortir du bachotage pour viser une rétention à long terme.
Logique. Bon, avant de conclure, un petit coup d'œil sur une ressource signalée, formabilité.fr.
Oui, un site sur l'accessibilité numérique en formation, apparemment très bien fait et utile.
À noter, et pour ceux qui veulent aller plus loin sur l'IA, il y a des ateliers prévus, non ?
Oui, deux ateliers en octobre, le 7 à Nantes sur l'IA pour la conception de support et le 14 à Angers sur l'IA dans la relation apprenant.
Et aussi une session sur l'accueil des personnes avec troubles neurodéveloppementaux en décembre.
Le 5 décembre, oui. Un sujet important pour l'inclusion.
Bon, voilà un tour d'horizon assez complet. IA, stratégie, conception, évaluation, inclusion.
C'est très riche. Ça montre à quel point le champ de la formation est en pleine...
Transformation.
Oui. Alors, si on devait retenir une grande question qui émerge de tout ça pour les professionnels, ben, je dirais que la question centrale, face à toute cette technologie, cette digitalisation, ces nouvelles exigences, c'est comment on préserve et on renforce l'humain au cœur de la formation.
L'humain, c'est-à-dire ?
L'empathie, l'accompagnement critique, le lien personnalisé, l'écoute. Comment s'assurer que la technologie reste un outil, un formidable outil, mais au service de l'apprentissage et de l'humain, et pas l'inverse.
Une belle réflexion pour finir. Comment garder cette dimension humaine essentielle tout en intégrant intelligemment les outils ?
Voilà, c'est le défi permanent, je crois. Une question à méditer pour chacun dans sa pratique.